Voilà, je vais prier. Seigneur, merci pour la possibilité d'être ensemble ce matin. Seigneur, c'est une bénédiction que tu nous renouvelles dans ton grand amour, dimanche après dimanche, et à chaque fois que nous sommes ensemble. Seigneur, nous voulons prendre cela comme un cadeau, à chaque fois. Ne pas assumer que c'est normal. Ne pas, Seigneur, être piégé par l'effet répétitif. Seigneur, mais nous voulons avoir constamment à l'esprit. Seigneur, que tu nous accordes une bénédiction à chaque fois que nous pouvons être ensemble. Seigneur, et en ce sens, je prie pour que nous soyons reconnaissants d'être les uns et les autres assemblés, avec des passés, avec des compréhensions et des connaissances diverses de toutes choses. Mais Seigneur, tu nous as fait un don. Tu nous as donné, Seigneur, ces moments. Tu nous as donné ton Fils. Seigneur, et nous avons en commun la rédemption par ton sang. Et je prie pour que nos cœurs exaltent de joie ce matin. Que nos cœurs, Seigneur, soient reconnaissants au Père éternel de nous avoir assemblés. Amen. Voilà. Merci. Alors j'aimerais que nous allions dans le livre des Juges. Au chapitre 6. Et un peu au chapitre 7, et plus tard je lirai également dans 1 Corinthiens chapitre 1. L'époque des juges est une époque où le peuple d'Israël vit un peu en dents de scie. On lit souvent que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et ensuite, on lit que le pays fut en paix pendant tant et tant d'années. À plusieurs reprises, cela vient dans le livre des Juges. Le chapitre 6, c'est l'époque où Gédéon est appelé par Dieu à être le chef d'Israël. À ce moment, Israël vit dans la désobéissance et ils sont sous la coupe de leurs ennemis de toujours, Madian, Amalek également, et ils sont maltraités réellement par ce peuple. La raison pour laquelle Dieu les livre à Madian pendant 7 ans, il est dit, c'était qu'ils avaient abandonné Dieu, le seul vrai Dieu. Ils l'avaient abandonné pour adopter d'autres dieux, qui étaient les dieux des Amorites, ou des Amoréens. Et Dieu n'aimait pas ça. D'ailleurs, Dieu ne l'aime toujours pas. Ils avaient troqué d'une certaine manière le Dieu qui les aimait. Il est dit au verset 9, fin de verset 8, « Je vous ai fait monter d'Égypte, c'est Dieu qui parle, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, de l'esclavage. » Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Ils ont quitté ce Dieu impliqué dans leur vie quotidienne. Ce Dieu qui s'intéressait à eux, qui les aimait profondément, ils l'ont quitté pour d'autres dieux qui, eux, n'avaient pas grand-chose à faire des hommes. Une des conséquences de ce choix, c'est la défaite. C'est qu'à chaque fois qu'ils étaient attaqués, ils étaient défaits, ils étaient vaincus. Je me demande si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Si lorsque nous vivons dans la désobéissance par rapport à ce que nous connaissons de Dieu, si nous ne sommes pas dans la défaite, lorsque le malin vient pour nous attaquer. En tout cas, je le crois. Alors Israël, très malheureux, se met à crier, comme à l'habitude d'ailleurs, et peut-être qu'on se reconnaît aussi là, se met à crier et Dieu intervient et les délivre de la main de Madian. Il envoie l'ange de l'Éternel qui se présente à Gédéon. Alors Gédéon était un illustre inconnu. Il se présente lui-même dans le chapitre 6, au verset 15. « Voici mon CV. Ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Je suis le plus petit chez les plus pauvres. Voilà. Et ça, c'est un homme dont l'ange de l'Éternel dit « Tu es un vaillant héros ». Verset 13. L'ange de l'Éternel, verset 12, pardon, lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». On est dans le paradoxe complet, n'est-ce pas? Je suis le plus petit des plus pauvres. Si on va au chapitre 7, Dieu explique à Gédéon comment il va faire. Comment il doit s'organiser, les règles pour combattre Madian et pour remporter la victoire. Alors je vais le lire à partir du verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop peu nombreux. Il va falloir trouver des mercenaires un peu partout parce que en face, ils sont forts. Non, bien sûr, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Alors, ils étaient 22 000. On va au verset 3. Leurs ennemis au chapitre 8 et au verset 10, étaient 15 000 plus 120 000, 135 000 hommes. Et Dieu vient voir le plus petit des plus pauvres, il l'appelle un vaillant héros, et lui dit, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Je pense que Gédéon faisait partie de ces gens qui sont jamais très sûrs d'eux-mêmes, qui depuis toujours se sentent incapables parce que leur position sociale leur a montré qu'ils n'étaient rien, parce que la situation familiale montrait qu'ils n'avaient pas d'argent, et donc il était incertain dans tous ses choix. Et on l'a passé, mais à deux reprises, il a demandé à Dieu un signe tangible de sa présence à ses côtés parce qu'il avait peur. Parce qu'il avait peur de se tromper. Il avait peur que ce qu'il allait faire c'était juste le fruit de son imagination, parce que évidemment, il ne se sentait pas un vaillant héros. Peut-être vous reconnaissez dans ce portrait. Vous avez besoin d'être rassuré. Vous ne savez pas si ce que vous faites c'est bien. Vous êtes toujours en train de vous demander si est-ce que je vais y arriver. Gédéon était un peu comme ça. Mais Dieu l'a appelé un vaillant héros. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire « C'est ma main qui l'a délivré, qui m'a délivré ». Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne. Alors, ça ne concernait pas Gédéon. Ça concernait tout le monde, mais pas Gédéon. S'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000, donc en fait ils étaient 32 000 et pas 22 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là j'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. 300 hommes contre 125 000. Un homme incertain, peu sûr de lui, le plus petit d'entre les pauvres, le plus pauvre, le plus petit. C'est là ce que Dieu prévoit, organise, planifie. C'est là la règle que Dieu impose à Gédéon et au peuple d'Israël pour remporter la victoire. La hantise de Dieu en ce qui concerne son peuple, c'était que à nouveau il retombe. C'était qu'à nouveau il refasse ce cycle. Je désobéis, je suis dans la défaite, je crie à Dieu, il vient, il me pardonne, il me délivre et je suis dans la victoire à nouveau. Jusqu'à ce que la prospérité aidant, parce que vous savez que lorsqu'on obéit à Dieu, ce sont des jours meilleurs qui arrivent. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de combat, mais à l'intérieur, ce sont des jours meilleurs qui arrivent. C'est que là où nous étions dans la difficulté, là où nous n'arrivions pas à assurer, Dieu a fait quelque chose qui fait que désormais, on passe. Et on passe plutôt bien. Et cela, avec les années, s'améliore. Parce qu'en rencontrant et en connaissant Dieu de mieux en mieux, eh bien, nous recevons de sa part. Et nous traversons nos difficultés de façon beaucoup plus facile. Et nous sommes dans la victoire. Et malheureusement, et c'est là une des causes reconnues de l'échec finalement du réveil de Wesley, c'est que la population est devenu meilleur. Les gens sont devenus meilleurs. Et en devenant meilleurs, ils ont fait des affaires, honnêtement. Ils se sont enrichis. Mais graduellement, cette richesse les a écartés de Dieu. Et c'est là toute l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies que de nous garder attentifs à notre marche avec Dieu. Et même si nous prospérons spirituellement, voire matériellement, eh bien Dieu souhaite nous maintenir dans un état où nous n'allons pas refaire ce cycle comme le peuple d'Israël. Or, c'est ce qui préoccupait grandement l'apôtre Paul. Lorsqu'il est allé rencontrer, voir, et surtout lorsqu'il a écrit aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, que je vais lire dans un instant, on va voir à quel point Paul insiste sur les bases de la foi, sur les bases de la rédemption en Jésus-Christ, parce qu'il perçoit chez les Corinthiens des difficultés pour se maintenir dans la foi telle qu'ils l'avaient connue lorsqu'ils ont cru pour la première fois. Corinthe était devenue une ville prospère sous l'Empire romain. Elle était devenue la capitale de l'Achaïe en 44 avant Jésus-Christ. Et c'était une ville riche où beaucoup de choses se passaient. Il y avait beaucoup de courants politiques, il y avait beaucoup de commerce, il y avait beaucoup d'activités de toutes sortes. Et il y avait là une église. L'église de Corinthe. Et il est dit dans les premiers versets que Dieu avait largement béni cette église. Il est dit que Jésus avait comblé. Alors, car en lui, en Jésus-Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Ils avaient été largement bénis, mais en réalité, ils vivaient en chrétien charnel, et ils vivaient finalement dans l'ignorance de leur responsabilité au sein de cette ville de Corinthe. Corinthe, tellement traversée par toutes les tendances de l'époque, avec encore la sagesse grecque bien présente, eh bien, cette église de Corinthe avait comme des difficultés à jouer son rôle dans la ville. N'est-ce pas? En principe, une assemblée vivante fait contraste avec le lieu où elle est installée. C'est-à-dire que vous devez pouvoir faire une différence entre aller au club de foot ou à la mairie et aller à l'assemblée évangélique d'Asbrook. Ça ne doit pas être la même chose. Il faut également que les choses qui se passent fassent contraste. Les choses qui se passent ici à l'intérieur fassent contraste avec ce qui se passe à l'extérieur. Parce que si c'est juste la même chose, alors on n'a pas lieu d'exister, n'est-ce pas? Et c'était là la grande difficulté des Corinthiens. C'était qu'ils ne faisaient pas contraste. C'est que les problèmes qui existaient dehors existaient aussi à l'intérieur. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a été obligé de leur réexpliquer les bases de la foi en Christ. En réalité, alors que l'Esprit de Dieu aurait dû envahir la ville, c'est l'Esprit de la ville qui a envahi l'Église. Et ça, ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable, mais pourtant, on le voit aujourd'hui, les chrétiens s'attachent à copier, à singer les œuvres du monde pour les adapter et les faire entrer dans l'Église. Parce qu'ils trouvent que ces choses sont bien. Alors, je vais lire dans 1 Corinthiens à partir du verset 18 et jusqu'au verset 31. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Le danger avec cette Église, c'était qu'ils oublient à qui et à quoi ils devaient leur salut. En gros, il est dit qu'ici, le salut, c'est lorsque l'homme est convaincu de folie. C'est ça, le salut. C'est-à-dire que lorsque l'homme a compris la folie de la croix, peut-être que ce que je vous dis, ça vous semble fou. Parce que peut-être que vous êtes devenu sage. Si vous êtes devenu sage, alors, vous dire que la croix est une folie, c'est fou. Vous me suivez? En fait, c'est comme ça dans tout ce chapitre. Mais en réalité, lorsque des gens viennent à l'Église et qu'on leur annonce le salut par la croix, je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être avant, comment vous étiez? Peut-être que vous-même avez dit, mais ça va pas bien. ce que tu me racontes là, c'est un peu farfelu, n'est-ce pas? Qu'un homme, qui n'est pas un homme, parce qu'il vient de Dieu, mais qui n'est pas Dieu, vienne sur la terre et partage la vie des hommes, et que finalement il monte sur une croix, il se fait crucifier, son sang coule, et l'humanité peut recevoir le salut de cette façon-là. Est-ce que tu n'es pas un peu fou de croire à ce genre de choses? Mais le salut, c'est lorsque l'homme a renoncé à ce raisonnement. C'est lorsque l'homme a renoncé à ce raisonnement qu'il prend pour de la sagesse. Lorsqu'on vous dit, mais vous êtes fou de croire à la croix, celui qui vous le dit se croit sage, n'est-ce pas? Il se croit extrêmement sage, puisqu'il vous croit fou. Et son salut, il est là. Le vôtre s'est fait à ce moment précis. Où au lieu de dire, mais la croix c'est farfelu, vous avez dit, la croix c'est mon salut. Parce que ça c'est la preuve que Dieu a complètement inversé votre mentalité, que votre compréhension a été inversée complètement. Que la malédiction qui existait sur votre vie a été transformée en bénédiction. C'est de cela dont il s'agit. Parents, chrétiens, amis, si vous avez des enfants autour de vous, même dans votre famille, ne présumez pas qu'ils vont comprendre le message du salut parce qu'ils sont dans la famille. Il faudra aussi qu'ils acceptent, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, que la croix est une folie, que la compréhension même du salut est incompréhensible si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Imaginez l'état de ceux qui côtoyaient Jésus lorsqu'il est monté sur cette croix. Cet homme qui, jusqu'à 30 ans, régulièrement à Jérusalem, venait discourir avec les pharisiens et souvent il leur fermait le clapet. Cet homme qui, à partir de ses 30 ans, a commencé à faire des miracles. Cet homme dont on croyait qu'il allait délivrer Israël, parce qu'il était puissant dans tout ce qu'il faisait. Cet homme qui était si prometteur. Cet homme qu'on aurait voulu délivrer de la main de Pilate et des Romains, n'a pas bronché lorsqu'on est venu le prendre. Et lorsque Pierre a coupé l'oreille de ce garde, il est même allé la recoller. Cet homme-là n'a pas bronché. Il est monté sur cette croix et il s'est laissé crucifier lamentablement. Comme un brigand, comme n'importe quel meurtrier, il s'est laissé crucifier. Imaginez un sportif. Un grand sportif qui remporte victoire après victoire, qui amasse de l'argent, qui devient riche, qui est un exemple, ou qui devrait l'être, pour tout le monde, et qui, au lieu d'être un exemple, dilapide toute sa fortune et on est réduit à mendier. C'est arrivé de multiples fois. C'est arrivé à un boxeur, George Foreman. Je ne sais pas si vous connaissez ce boxeur qui a combattu contre Cassius Clay et qui a perdu son titre mondial en Afrique, c'était. Eh bien, cet homme était un bon vivant, il était immensément riche. Il a dilapidé sa fortune dans des stupidités incroyables. Je crois qu'à une époque, à un moment, il a acheté une voiture par semaine. Et dans ce combat, alors qu'il a pris le dernier coup de poing qu'il a mis par terre, alors que le sang giclait, il a eu une vision de la croix et du sang de Jésus-Christ qui a coulé pour lui. Et cet homme est aujourd'hui pasteur. Il est remonté sur le ring après, parce qu'il avait besoin d'argent pour les œuvres qu'il était en train de faire, et il a remporté un titre mondial à nouveau. Alors, c'était le plus vieux poids lourd qui a remporté un titre mondial, et c'était grâce à Dieu. C'était grâce à Dieu. Mais cet homme n'a pas été un exemple dans la première partie de sa vie, alors que le monde entier avait les regards fixés sur lui à l'époque. Il faisait n'importe quoi. Est-ce que c'était ça, Jésus ? Quelqu'un en qui on avait mis beaucoup d'espoir et qui aujourd'hui nous décevait. Alors, on aurait pu dire que Jésus n'était pas un homme très sage. Que le plan de Dieu n'était pas d'une très grande sagesse. Que même c'était une folie, peut-être. Mais Gédéon aurait pu peut-être se dire la même chose, n'est-ce pas ? C'était pas une bonne idée, Seigneur, Éternel des armées, que de me laisser avec 300 bonhommes devant une armée de 125 000. Pourtant, c'est ainsi que Dieu a remporté la victoire. C'est ainsi que Gédéon, avec Dieu, a remporté la victoire. Ce que j'aimerais, c'est vraiment que nous comprenions ce matin quel est un des principes fondamentaux de la vie chrétienne et du salut de Dieu. Les Corinthiens se disputaient à savoir quel était le prédicateur qui avait la doctrine la plus juste, peut-être. Quel était celui qui était le plus fiable dans ce qu'il disait ? Et certains disaient, mais c'est Apollos. Et d'autres disaient non, parce qu'Apollos, il croit à ça, et il le dit comme ça, sauf que l'apôtre Paul, lui, il le dit ainsi, et je crois que c'est plus juste. Mais non, il faut écouter ce que dit Céphas, parce que Céphas a soulevé un point que ni l'apôtre Paul, ni Apollos n'ont soulevé. Et d'autres venaient et disaient, mais non, c'est Norman Mitten qui a raison. Et d'autres sont venus après et ont dit, mais non, c'est Paul Tradoc qui a raison. Frères et sœurs, ça n'a pas cessé depuis les Corinthiens. Ça n'a pas cessé depuis les Corinthiens. Les gens sont toujours en train de se disputer sur qui a raison. Ils sont toujours en train de se disputer sur l'enveloppe des choses, alors que l'essentiel, c'est la folie de la croix. Parce que c'est la prédication de la croix qui nous a sauvés et non pas la parole d'un homme, la façon dont il a enveloppé le message. Le drame, c'est que cela divertit les gens de l'essentiel. se baser sur tel et tel plutôt que sur l'autre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention dans certains cas. Mais lorsqu'on est sûr que l'essentiel est dit, lorsqu'on est sûr que la personne a dans son cœur le prédicateur, mais aussi mon voisin, parce que c'est lui qui me parle de Dieu, souvent, eh bien, lorsqu'on est sûr que ses intentions sont pures, alors pourquoi se préoccuper de l'enveloppe du discours ? Dieu avait prophétisé. Que ce message serait un message de folie. Il avait prophétisé dans Ésaïe. Je ne sais plus le. Est-ce que c'est Ésaïe ? Si quelqu'un le sait. Vous avez 29 ? Non, c'est pas 29. C'est pas grave. Non, il avait prophétisé dans Ésaïe que, en posant la question où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle, l'apôtre Paul en fait une citation qu'on retrouve dans Ésaïe. Je n'arrive pas à retrouver la référence. Ça signifie quoi ? Ça signifie que Dieu avait prévu cela. Il avait prévu la folie de la croix. Il avait prévu et il a voulu que ce soit de la folie pour l'homme. Il a voulu que le salut ne se construise pas sur la sagesse d'un langage, sur la sagesse, qu'elle soit grecque, qu'elle soit hébraïque, qu'elle soit de n'importe quelle origine. Dieu a voulu que le salut soit construit sur une folie, sur quelque chose qui ressemble à un Gédéon, le plus petit des pauvres, quelque chose qui ressemble à un peuple d'Israël réduit à néant, quasiment. Parce que le Fils lui-même a été réduit à néant. 14, Ésaïe 14. 29, 14. Ah bon, c'était 29 quand même. Je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Voilà. C'était cette œuvre, cette prophétie que Dieu lui-même avait donnée par Ésaïe s'accomplissait avec la croix. Parce que ça, évidemment, à l'époque, tout le monde pouvait se moquer de lui, et c'est ce qui se passait. Mais en réalité, aujourd'hui, cette œuvre, même pour ceux qui en sont extérieurs, juste à voir le remue-ménage que ça a fait, l'impact que ça a eu dans le monde, même de façon extérieure, qui aurait pu, à l'époque, une seule seconde, imaginez que cette croix nous amènerait où ça nous a amené aujourd'hui. Peu de monde. Jésus lui-même le savait, bien entendu. Mais les hommes n'avaient pas du tout cette vision des choses. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul pose la question. Quand Dieu dit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents », il pose la question « Où sont les sages ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Ils ont disparu. On leur a mouché le nez. C'est pas comme ça que c'est dit. Mais ils ont disparu, ils ne sont plus là. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent annoncer ce qu'ils ont envie. Ils peuvent nous faire croire ce qu'ils veulent, comme ils le veulent. La croix est passée. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. N'est-ce pas? C'est bien cette croix et la folie de la prédication, cette croix qui sauve l'homme. Est-ce que vous continuez à croire en la croix de Christ? Ou est-ce que vous avez divergé vers des endroits, vers des sommets de sagesse humaine? C'était ça l'inquiétude de l'apôtre Paul. Est-ce que vous faites comme ceux de dehors qui se disputent les partis politiques? Est-ce que vous êtes de ceux qui regardent les stats en permanence et qui disent « Mais c'est ça la vérité ?» Ou est-ce que vous êtes restés à l'essentiel? C'est la croix de Christ. C'est l'Esprit de Christ qui me sauve jour après jour. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Est-ce que vous comprenez que les choses folles du monde, c'est vous? Dans cette église, il n'y a pas beaucoup de gens riches. Il y en a beaucoup de plus riches que moi, mais il n'y a pas beaucoup de gens riches. Il n'y a pas beaucoup de gens puissants. On attend toujours le maire et les adjoints et tout le reste. Ils ne viennent pas. Il n'y a pas beaucoup de nobles, de gens très dignes de la cour du roi de France. Enfin, en Angleterre, on pourrait le faire parce que ça marche bien, mais en France, il n'y a pas beaucoup de gens de la haute qui viennent dans cette assemblée. C'est dommage. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu a choisi le plus petit parmi les plus pauvres pour vaincre une armée entière, pour convaincre, on va dire aujourd'hui, une armée entière, un peuple de nobles, un peuple de puissants, un peuple de sages. Frères et sœurs, c'est à nous qu'appartient ce rôle. C'est là la raison d'être de la communauté évangélique d'Hasbrouck. C'est qu'elle fasse contraste avec ce qui se passe à l'extérieur. Et non pas l'inverse, non pas qu'elle soit mangée par les gens, ou par l'esprit du dehors. Vous comprenez que c'est là ce que Dieu nous appelle à faire. C'est que Dieu nous appelle à faire la différence. Il ne demande pas à ce que vous deveniez plus sage. Il ne demande pas à ce que vous vous enrichissiez, que vous deveniez plus noble. Il demande que vous deveniez plus obéissant. Vous savez, si Jésus a pu monter sur la croix, c'est parce qu'il a été obéissant en toutes choses. C'est parce que Dieu a pu trouver en lui sa gloire. Et parce que Christ a pu trouver en Dieu sa gloire également. Si on revient à Gédéon, la raison pour laquelle Dieu a voulu réduire le nombre, c'est pour que les hommes ne se glorifient pas de la victoire. C'était pour que les hommes ne puissent pas dire « Oui, nous avons été forts, nous avons remporté la victoire. » N'est-ce pas ? On est souvent comme ça. Hein, quand on remporte les victoires, ah, j'étais fort. Et quand on est dans les défaites, c'est Seigneur, t'étais où? C'est ça? Afin que personne ne se glorifie. Et ça, c'était la volonté de Dieu pour le peuple d'Israël. Je vais réduire le nombre. Parce que je veux que la gloire me revienne. Jésus, dans son obéissance parfaite, a été anéanti pour que ce soit la gloire de Dieu qui surgisse, pour que le salut soit apporté par Dieu en Jésus-Christ. Parce que en Jésus-Christ, il était désormais possible d'être sauvé. Parce que cet anéantissement était total et sans péché. N'est-ce pas ? Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, il est dit. Hein, je prends un peu au-dessus. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui, c'est par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je vois beaucoup les choses avec des images, m'excuse, c'est comme ça. Et j'ai essayé d'imaginer un peu Gédéon à l'issue du combat, et ensuite cette paix de 40 ans qui a régné. Gédéon a dû se rappeler tout l'épisode précédent, cette apparition de l'ange de l'Éternel devant lui qui le salue en l'appelant vaillant héros. Et vous savez, frères et sœurs, c'est comme ça que Dieu vous appelle. Il ne vous dit pas que vous êtes des misérables vermisseaux. Il ne vous dit pas que vous êtes des moins que rien et que heureusement qu'il est venu parce que sinon vous seriez en enfer maintenant. C'est la réalité. C'est la réalité. Mais lorsque Dieu vient, il vient, Satan va vous parler comme ça. Satan va vous annoncer l'évangile de cette façon. Il faut avoir les oreilles ouvertes lorsque vous entendez des prédications. Satan va venir vous annoncer l'évangile et va vous parler de cette manière. De sorte à ce que lorsque vous partez, vous vous sentez encore plus coupable que lorsque vous êtes rentré. Croyez-le. Mais Dieu vient et il vous appelle vaillant héros. C'est pas pareil, n'est-ce pas? Toi, le plus petit, toi le plus pauvre parmi les petits, tu es un vaillant héros. Et je serai avec toi dans tous tes combats. Écoute-moi. Fais les choses telles que je te les montre et tu remporteras des victoires sur ta propre vie, pour ta famille, pour ta communauté, pour la ville, pour la France, pour le monde, pourquoi pas. Qui sait à quoi Dieu nous appelle? Vaillant héros. Frères et sœurs, je souhaite que tous, moi y compris, et peut-être en premier, nous restions à ce qui est la base, que nous en repartions toujours de là. Je sais qu'il faut progresser et grandir dans la connaissance de Dieu. Mais que chaque fois nous revenions à ce qui est l'essentiel. Que nous ne nous laissions pas aller à être divertis par d'autres choses. Que nous ne devenions pas des chrétiens professionnels. Ça, c'est la chose la plus terrible qui puisse exister. N'est-ce pas? Vous avez rencontré certaines personnes, vous avez l'impression que vous pouvez appuyer sur les boutons et que là, il y a la concordance qui va sortir, que là, il y a le commentaire. Que nous restions dans la simplicité. Ça ne veut pas dire la stupidité, mais que nous soyons capables de rester simples. Que nous restions compréhensibles entre nous et aussi aux gens de l'extérieur, afin qu'ils aient envie d'en savoir plus. Que nous ne soyons pas infectés par les voies extérieures, j'appelle ça la doxa, par tout ce qui... tous ces courants de pensée, qu'ils soient dans le monde ou même dans l'Église, qui viennent comme des vagues, comme des marées, elles rentrent, et lorsqu'on s'y accroche, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est déjà repartie. On se dit, mince alors, on s'est fait avoir. Il y a eu plein de choses comme ça ces dernières années, n'est-ce pas? Lorsque l'or descendait du ciel, lorsque les gens faisaient des cris de poule dans les églises. On voit des choses pareilles. Mais des fois, c'est plus subtil. Des fois, c'est de la philosophie religieuse. Que nous puissions rester attachés à la folie de Dieu. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2. En lui, vous avez tout pleinement. J'aimerais J'aimerais juste lire en guise de conclusion un verset dans Jean 17. Verset 4. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il n'y a que Jésus qui pouvait demander au Père de le glorifier. Gédéon n'aurait pas pu demander à Dieu de le glorifier. Il n'y a que Jésus qui pouvait demander cela au Père. N'est-ce pas, nous pouvons tout trouver en Christ. On l'a lu, vous avez tout pleinement en lui. Parce que Christ, lorsqu'il était présent sur la terre, a tout trouvé en Dieu. Et que Dieu a tout trouvé en Christ. N'est-ce pas, ce que Dieu cherchait en Christ, c'était l'obéissance parfaite. C'était la pureté. Et c'est ce que Dieu a trouvé dans cet homme. Et c'est quand il l'a anéanti sur la croix que la victoire a été remportée. C'est là que Dieu a dit, maintenant le salut est possible dans mon Fils. Maintenant le salut est possible. C'est lorsque la faiblesse absolue est présente et qu'elle correspond à ce que Dieu recherche, que le salut est possible. L'œuvre de la croix est une œuvre incroyable. C'est une œuvre merveilleuse. Mais elle est effectivement incompréhensible pour le monde. Mais je crois que le monde va nous voir vivre la réalité de ces choses au quotidien. Lorsque nous sortons, lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes dans la rue, le monde veut voir quelque chose d'autre que quand il va au club de foot ou quand il va à la mairie. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. N'est-ce pas? La croix, quelque chose qui a démarré il y a bien longtemps, bien avant 2000 ans. C'est quelque chose qui a été préparé dans les tout débuts, là où nous n'avons pas la vision et la connaissance des choses. Quelque chose qui est préexistant à toute chose. Voilà, je vais m'arrêter là. Seigneur notre Dieu, tu es merveilleux. Seigneur notre Dieu, ta parole est merveilleuse. Seigneur, nous voulons nous confier dans la sagesse de la croix. Nous voulons confier dans ce qui pour le monde est une folie. Seigneur, et nous, nous voulons continuer à adopter cela comme étant notre trésor. quelque chose, ô Dieu, que tu as accompli pour nous. Seigneur, nous voyons à quel point tu t'es impliqué dans le peuple d'Israël. Et nous voyons, Seigneur, à quel point tu t'impliques dans nos vies. Seigneur, nous n'avons pas de mots pour te remercier. Nous n'avons pas de mots, ô Dieu, pour te rendre gloire même. Mais Seigneur, nous savons que ta gloire, tu la trouves en nous à chaque fois que tu peux œuvrer au travers de nous. À chaque fois que tu nous trouves obéissants. À chaque fois que tu nous trouves, Seigneur, attentifs à ta voix et à ce que tu veux nous dire. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous sauves encore jour après jour. Seigneur, que nous ne sommes pas obligés de rentrer dans des cycles tels qu'Israël en connaissait année après année ou siècle après siècle. Seigneur, nous pouvons marcher régulièrement avec toi. Seigneur, tu veux remplir nos vies. Seigneur, tu veux continuer à nous émouvoir. Tu veux continuer à Dieu à nous parler. Tu veux agir plus profondément dans nos cœurs, Seigneur, et tu veux agir aussi en puissance. Et Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de te voir à l'œuvre encore aujourd'hui. Nous avons besoin, Seigneur, que tu rectifies ce qui n'est pas droit. Seigneur, et que nous puissions être des exemples pour le monde. Que nous puissions être des exemples pour nos enfants. Seigneur, que lorsqu'ils nous voient, ils aient envie de nous ressembler et pas de rejeter la croix de Christ. Seigneur, équipe-nous, continue, Seigneur, à travailler dans nos vies. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous voulons de toi plus encore. Seigneur, nous voulons que tu continues à nous convaincre. Seigneur, nous voulons arrêter de discourir. Nous voulons arrêter de discuter avec toi. Nous voulons être attentifs à ta voix. Seigneur, nous voulons croire que là où tu nous as placés, c'est l'endroit où tu veux nous voir travailler. Seigneur, nous voulons avoir le cœur ouvert et que jour après jour et minute après minute, tu puisses travailler en nous et par nous, dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen.